Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon, réalisée par Hélène Biziot et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Julien Michel. Le 8 août 1817, le splinétique poète Giacomo Leopardi rédige une missive à l'adresse de son ami, l'écrivain et critique littéraire Pietro Giordani, dans laquelle se trouve la gourmandise du jour. Si Leopardi a l'habitude d'évoquer dans ses lettres sa haine de lui-même et du monde, le néant existentiel auquel nous sommes tous condamnés ou la déchirure de son âme, il évoque dans ce message une amélioration de son état et dans une tournure qui préfigure certaines formules de Woody Allen ou d'Émile Cioran. Je vous lis le passage. Je vais beaucoup mieux depuis quelques jours, mais d'une manière telle que si une personne en bonne santé tombait dans cet état, elle se tiendrait pour morte. Extrait du recueil de lettres de Leopardi, publié chez Rivage Poche sous le titre « L'art de ne pas souffrir ». 105e sociétaire de la Comédie Française, notre apothicaire de l'âme est un comédien, metteur en scène et scénariste habité par le verbe, comme en témoignent ses essais, son roman et sa façon de goûter et restituer le langage. Adolescent, il envisage de devenir moine ou grand écrivain. Le cosmos le détourne un peu de ses projets, il sera président de la République au cinéma. On le dit hyperactif, lui, qu'il s'est toujours senti empêché dans son corps, ses ambitions, ses désirs plus vastes que ce qu'il pouvait exprimer. Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
Je sais que vous avez quelques démons. Il paraît que la réplique exacte de l'un de vos cauchemars récurrents, c'est le film très violent Apocalypto de Mel Gibson. Première question, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
En fait, un rapport très heureux, j'allais dire. Je crois qu'il y a deux grands sens de la mélancolie. Il y a une mélancolie bilieuse, maladive, qui fait très très mal, qui est très concrète, qui est une véritable pathologie. Et puis, il y a une mélancolie qui est une énergie, qui est la mélancolie des... Quand on a surmonté un certain seuil mélancolique, il y a toujours une mélancolie qui demeure. Et celle-ci, on en est beaucoup plus maître. On lui donne forme. C'est celle qui nous fait aussi travailler. C'est la mélancolie, la pathologie, mais transformée en œuvre, si on veut.
Donc transcendée.
Oui, transcendée, transformée par la parole.
Par le labeur.
Par quantité de choses, par l'amour, par le labeur, par le travail, par toutes les relations, les multiples relations qu'on peut avoir au monde.
Donc ça peut s'arranger.
Je crois que ça s'arrange à partir du moment où on sait qu'on n'en finira jamais.
D'accord.
Voilà, que c'est inguérissable.
Une
que
acceptation.
C'est quelque chose... Il y a de l'ordre de l'acceptation, mais qui ne doit pas être une résignation. C'est que des choses très très, c'est que des équilibres extrêmement fins, j'ai l'impression, et qui ne peut, c'est très très difficile de donner ça comme une recette. Ce n'est pas une recette puisque c'est un très très long chemin. C'est comme une méthode. Méthode, ça veut dire chemin. Et en fait, c'est le chemin lui-même qui est le remède. C'est pas le bout du chemin.
Je crois que nous avons fini cette émission et même voilà. Toutes les émissions. J'annonce le sommaire des réjouissances aux auditeurs.
Ouais.
Dans quelques instants, Denis Podalydès, vous allez convoquer Emmanuel Kant, les planches de votre parquet, Jacques Higelin, Léonard Cohen et des rimes en haut, Jean-Jacques Rousseau, François Truffaut, Jean-Pierre Léo, Antonin Artaud, Pablo Picasso et Camille Corot. Juste après,
ah, c'est drôle.
Le titre Tonight du groupe new-yorkais LCD Sound System.
Everybody sing the same song. It goes tonight, 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 tonight. I never realized these artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry, 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 cry. Is everybody feeling the same stuff? We're all the world, except for you, and you know who you are. This is a love song, and you're getting older. I
nightmare, and there's nothing I can do, nothing anyone can do about this. I'm offering you a chance to get even, but that's not love. And you're too sharp to be used, or you're too shocked from being used by these bullying children of the fabulous, raffling off limited edition shoes. And what did you do again?
Well, I'm a reminder, the hobbled veteran of the disc shop Inquisition, set to parry the cocksure mem's dick tilt with my own late era middle-aged rambling.
Every love and favors the same things. It's all a touch me. We maybe realize what it is we need before we die.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Denis Podalydès et de quelques détectives existentiels.
Eh bien voilà, personne ne m'aime et je veux savoir pourquoi.
Oui, enfin, si vous pensez que tout le monde vous déteste, c'est peut-être que vous avez montré du mépris à l'égard de tel ou tel.
Ah non, absolument pas, non, je méprise personne. Vous savez, tout le monde peut venir
se faire chausser chez Tabar.
Je chausse aussi bien les juives que les femmes arabes. Et même les Shintoks, le jour où elles viendront, à condition qu'elles veuillent bien porter des talons hauts. Mais c'est pas demain la veille. Non, je sens que je suis détesté. Et je ne sais pas par qui. Je ne sais pas par qui. Je sens que c'est dans l'air quand je sors en public, au restaurant, au cinéma, ou à Avagram quand je vois la boxe. Je ne sais pas si ma concierge me déteste, mais en fait, quand je lui parle, elle hausse les épaules. Et ma femme rit tout le temps, sauf quand je raconte quelque chose de drôle.
Délices de 1968, Baiser volé de François Truffaut, c'est la scène dans laquelle Michael Lonsdale demande à un détective privé de trouver pourquoi personne ne l'aime. Michael Lonsdale, dont vous parlez dans votre ouvrage Voix off, Denis Podalydès, vous aimez la grâce et la lenteur de son débit.
Oui.
Et vous avez choisi cette scène. Je vous laisse nous faire une ébauche de ce film. Parce qu'il est difficile à décrire, ça pourrait être un ensemble de scénettes charmantes qui se succèdent.
Oui, oui, oui. C'est un film qui a saisi une légèreté des êtres, la vie d'un groupe de personnes autour du personnage magnifique d'Antoine Doinel. Et ce sont des moments de vie modestes, humbles, sans véritable drame. J'aime énormément les réalisateurs qui arrivent à nous passionner avec des choses qui pourraient relever de l'anecdotique, mais la profondeur, la tendresse et l'humour de leur regard fait que tous ces moments-là, ça crépite de vie, je trouve ça délicieux. À la fois Michael, évidemment, acteur sublime, et le ton est indéfinissable et inimitable. En plus, là, on entend qu'il y a ce que faisait Truffaut de la semi-improvisation. Je pense qu'il y a un dialogue écrit dans lequel l'acteur prend plus petit à petit des libertés. Et en face de lui, acteur que j'adorais, que j'adore toujours et qui est disparu depuis 2-3 ans, André Falcon, qui jouait le chef de détective de l'agence Bleddy.
Où est engagé donc le jeune Antoine Doinel, qui vient de
voilà, qui va rencontrer la femme, Madame Tabar, Fabienne Tabar, nom qui va répéter comme ça en boucle.
La femme de Michael Lonsdale qui joue un marchand de chaussures.
Oui,
et sa femme
peut se faire chausser chez Tabar.
Une apparition céleste incarnée par Delphine Seyrig. Oui. Le nez est un peu relevé, mais droit et spirituel,
oui,
dit Antoine Doinel.
Son teint teint est éclairé comme de l'albâtre éclairé de l'intérieur. Je sais plus, ils disent quelque chose comme ça. Son teint est frais. Mais on ne vous demande pas une déclaration, on vous demande une description, on ne vous demande pas une déclaration d'amour.
Vous connaissez les répliques par cœur?
Ouais, ce film, je le connaissais par cœur à un moment, oui.
C'est aussi un film très littéraire.
Oui.
Il est hanté par Le lit dans la vallée de Balzac, que Doinel lit au début du film. Ce qui est drôle, c'est que Delphine Seyrig...
Dont je sais par cœur quasiment les premières lignes.
Ah oui, je vous en prie.
À quel talent nourri de larmes devrons-nous un jour la plus émouvante élégie, celle des tourments subis en silence par une âme dont les racines tendres encore ne plongeaient qu'à peine dans le sol domestique. Puis après, ça se perd.
Bravo.
Mais j'avais appris par cœur, alors c'est un très grand éloge de la mélancolie d'ailleurs dans cette préface du Lys dans la vallée. Et il y a un romantisme dans ce, c'est peut-être le roman de Balzac le plus romantique. Et l'amour pour Madame de Mortsauf effectivement inspire énormément Truffaut.
Et d'ailleurs, Seyrig fera Madame de Mortsauf dans un téléfilm,
oui,
2 ans plus tard.
Très beau.
Il y a une légèreté, une insouciance dans le film que vous avez soulevé, Denis Podalydès, quand il va voir les prostituées, par exemple, Doinel, celle qui dit « ne me touche pas là, j'ai mis de la laque, non, j'ai une bronchite, arrête ». C'est assez drôle et en même temps, on sent un grand potentiel tragique derrière une grande mélancolie. Léo est espiègle et en même temps, quand il est dans sa solitude, qu'il erre, qu'il contemple Paris, qu'il écrit des lettres d'amour très graves, où il a la posture du héros romantique.
Oui, oui, oui. Mais vous connaissez très très bien, mieux que moi-même, le film en
question. Non, mais je l'ai peut-être revu plus récemment que vous,
oui,
pour préparer l'émission. C'est doux amer.
Jean-Pierre Léo, c'est vraiment un acteur totalement singulier. Il n'y a pas d'équivalent. Aujourd'hui, quelquefois, on dit un acteur peut faire penser à Jean-Pierre Léo. Je connais un acteur qui me fait beaucoup penser à lui, Alexandre Steiger. Mais parce qu'il est à mi-chemin entre le bouffon, la bouffonnerie à la Buster Keaton. Il a quelque chose d'une jeunesse très très contemporaine aux années 60. Il dans les films de Godard comme ça, il incarne totalement cette génération là. Et puis il a ce côté parfaitement littéraire, ce côté décalé. Quand il parle, on a l'impression qu'il y a une plume qui écrit. Toujours adoré. D'ailleurs, il a été merveilleux dans des téléfilms. Le Rouge et le Noir, il a fait une adaptation du Rouge et le Noir magnifique. Et c'est un acteur, justement, qui est à la fois extrêmement drôle, sans jamais rire lui-même, vraiment.
On a recueilli vos propos dans le magazine littéraire en 2010, et vous avez eu cette formule « Molière, c'est Truffaut, Racine, c'est Godard ». Alors, Molière, Truffaut, pour le flux de la vie, j'imagine, en ce moment, vous mettez en scène les fourberies de Scapin à la Comédie française et le génie formel des deux derniers.
Ouais, c'est le comique mêlé au tragique, alors que chez Racine, il y a l'exigence d'une forme unique. Il n'y a pas de... Il écrit une comédie avec les plaideurs, mais disons... Il vise une certaine pureté, alors que Molière vise l'impureté de la vie. Enfin, c'est dans l'opposition. Il y a toujours des grandes oppositions littéraires, cinématographiques, Godard, Truffaut, qu'on peut dire formaliste, et l'autre qui est plus réaliste. Comme dans le théâtre, il y a l'opposition entre Meyerhold et Stanislavski. Souvent, les grandes périodes de création, ça s'appuie sur deux grands créateurs qui sont à la fois rivaux, souvent qui ne s'entendent pas, et qui en même temps sont parfaitement complémentaires et représentent vraiment quasiment le tout de la réalité à ce moment-là. Godard et Truffaut, ils représentent à un moment le tout, le meilleur du cinéma français.
Vous qui êtes si sensible aux voix, je me demande ce que vous pensez de la suivante.
L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animal cul qui le démange mortellement. Alors, vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté.
Antonin Artaud, pour en finir avec le jugement de Dieu, une commande de l'ORTF enregistrée en novembre 1947, censurée la veille de sa diffusion, vous avez choisi une citation d'Artaud extraite d'une lettre adressée à Jacques Rivière, l'ancien directeur de la NRF. Elle date du 29 janvier 1924 et c'est « J'ai, pour me défendre du jugement des autres, toute la distance qui me sépare de moi-même ». Non pas une distance qui le sépare des autres, mais de lui-même. Il faut préciser tout de même qu'Artaud souffrait de troubles psychiques qui, ouais, lui ont valu plusieurs séjours dans des maisons de repos.
Lui, il l'entend vraiment dans le sens pathologique, psychiatrique. c'est qu'il sait très bien qu'il n'est pas lui-même. Il n'est rarement en état de coïncider avec lui-même. Mais j'adore cette phrase parce que d'abord, je me la dis toujours à chaque fois que j'ai su une mauvaise critique. Je me défends. C'est un ami, Alain Fromager, qui m'avait envoyé ça sur une carte, cette phrase-là. Elle m'avait énormément frappé. Et je me la ressors à chaque fois que je me sens blessé. Quelquefois par moi-même, je peux être le critique le plus dur qui soit vis-à-vis de mon propre travail. Et je me dis ça parce que ça me protège, d'une certaine manière, ça dissout le problème. C'est un cache-misère aussi, évidemment, mais je la trouve très belle, je pense qu'elle est vraie pour chacun aussi. Je pense qu'elle a une force universelle, cette phrase.
C'est vrai, mais surtout dans le métier de comédien, j'imagine qu'elle est d'autant plus utile. Et quand on vous lit dans Voix Off, par exemple, c'est assez amusant puisque vous trouvez différents surnoms pour vous qualifier. Je sais pas, je pensais à Lucien Foirard, où il y a un moment où c'est le moment sans doute le plus intime du livre, où vous parlez de vous à la troisième personne. Et vous prenez même votre deuxième prénom.
C'est Gabriel, parce que c'est une esquisse de roman.
Oui, voilà, mais vous parlez de choses très intimes à la troisième personne. C'est une façon de mettre une distance.
Oui, de toujours chercher la distance. C'est une nécessité. Je pense qu'il n'y a pas de travail artistique où il n'y a pas une prise de distance vis-à-vis de ses propres passions, obsessions, frustrations, etc. Et alors, il faut trouver la bonne distance. Ça me prend du temps aussi, ça.
Ne pas trop s'identifier à soi-même, paradoxalement, pour ne pas être englouti.
Absolument, ne chercher aucune identification. Ne pas essayer de dire « mais ça c'est moi, alors qu'est-ce que c'est moi ?» Pas chercher cette question-là, si tant est qu'il y ait des réponses, c'est qu'au travers d'un parcours et d'un nombre d'objets qu'on fabrique ou de rencontres qu'on fait, qui vous renseignent. C'est toujours l'autre qui en sait bien plus sur vous que vous-même. Nous, on n'arrive jamais à combler ce vide. Mais dans la distance qu'on crée, alors, d'abord, il peut se passer des choses intéressantes. Et puis, ça appelle les autres à vous nourrir.
Alors là, je vais parler d'un homme qui a eu quelques difficultés avec les autres, surtout vers la fin de sa vie. C'est l'auteur de l'autre citation que vous avez choisie. « L'homme est né libre et partout, il est dans les fers ». C'est le début du premier chapitre du « Contrat social » de Jean-Jacques Rousseau, rédigé en 1762. Un ouvrage dont vous avez d'ailleurs enregistré une lecture.
Oui.
C'est un constat maussade, toujours actuel. En quoi est-ce un remède par le fait que l'asservissement soit souligné ?
Non, mais ce qui est l'homme est né libre, c'est au contraire, il y a un formidable optimisme là-dedans chez Rousseau. Il y a l'idée que l'état de nature est un état bon, même si cet état de nature n'existe jamais. Il suppose qu'un homme, quand il n'est pas encore entré en relation avec les autres, eh bien, il n'est ni dans l'ambition, ni dans la jalousie, ni dans la violence, et donc il est dans la liberté. Et tout le travail d'une société, c'est d'essayer de faire en sorte que l'homme retrouve, ne serait-ce que métaphoriquement, cet état premier, cette liberté. Je trouve que c'est une phrase libératrice et qui dit tout de suite le scandale de toute injustice. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. La phrase en elle-même, dans son style, dans sa brièveté, elle a une force, je trouve, tellurique. Et Rousseau, c'est quand même un grand paranoïaque, quand même, un fou furieux, moqué par ses contemporains, et qui est quand même à l'origine de toute la philosophie de la liberté contemporaine des 18e et 19e siècles. Enfin, sa descendance, sa postérité, elle est gigantesque. Et notamment, cette phrase-là a cette puissance. Il y a des phrases comme ça qui soulèvent des mondes, qui sont des mondes.
Vous avez une licence de philosophie, je crois.
Oui, et ça s'est perdu, je n'ai pas fini ma maîtrise.
Bon, mais ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Rousseau a été contraint de s'exiler plusieurs années, puisque deux de ses ouvrages ont fait scandale, et ses trois dernières œuvres étaient des œuvres d'introspection. Comme vous le disiez, il souffre de paranoïa aiguë, il se brouille avec ses amis, il s'isole à la campagne, et c'est l'endroit où nous irons flâner juste après un titre du dernier album de Charlotte Gainsbourg, dont la sortie est prévue le 17 novembre, « Rest ».
Prends-moi la main, s'il te plaît. Ne me laisse pas m'envoler. Reste avec moi, s'il te plaît. Ne me laisse pas t'oublier. We're walking in the air. Sky. I'm
La mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Denis Podalydès. Le fantôme de Jean-Jacques Rousseau est toujours à nos côtés puisque vous avez choisi comme sérum littéraire les rêveries du promeneur solitaire rédigées entre 1776 et 78, soit les deux dernières années de l'auteur. Un ouvrage inachevé dont vous avez aussi enregistré une lecture aux éditions Télème.
Ah oui, j'avais oublié, oui.
Vous avez
vrai.
Tout lu.
J'ai fait beaucoup, j'adore ça, c'est un exercice que j'adore. Ça m'a même fait écrire voix off.
C'est votre refuge.
Dans les livres. C'est un refuge,
studio
oui. Le studio d'enregistrement, j'adore ça. J'adore la radio, j'aime bien être là.
Ah ben,
j'aime mieux
contente.
Ça. Un studio de télé, je me sens pas très bien. Je me sens pas tout à fait. La distance s'accroît entre moi et moi.
Oui, je vous comprends parfaitement. Pour revenir à l'ouvrage de Rousseau, on pourrait dire que c'est un ouvrage qui parle à tous les gens qui rencontrent des difficultés avec leur prochain. Il avait pris des notes sur des cartes à jouer. C'est comme ça qu'il a rédigé cet ouvrage. Et alors ça, c'est ma sensibilité personnelle, mais ça me fait un peu penser au monologue de fin de Baiser volé de Truffaut. Vous savez, il y a cet homme qui dit, il fait cette déclaration d'amour à Claude Jade en disant...
Avec moi, ça sera définitif.
C'est ça, il dit tout le monde trahit tout le monde, je le sais, je connais les hommes. Et Rousseau fait un peu le même constat, sauf que lui, il est tout seul.
Oui, c'est ce paradoxe, c'est que lui est seul, paranoïaque, mélancolique à l'extrême, et en même temps, grâce à lui, à sa pensée, des millions de gens vont, dans les deux siècles à venir, découvrir concrètement ce qu'est la liberté. La Révolution française, je suis certain, il met un germe qui est extrêmement puissant, c'est aussi pour ça qu'il était détesté, alors que lui était monarchiste, il n'aurait sans doute pas approuvé la Révolution, et puis il pensait qu'un État vivable est un tout petit État, comme la ville de Genève. Donc il l'aurait pas approuvé, mais c'est ce constat-là, c'est que cet homme, pleurnichant seul dans son coin, en même temps, pose la première pierre de la démocratie dans laquelle nous vivons encore.
Dans ses rêveries, il s'agit plutôt d'une suspension des peines de la vie plutôt que d'une jouissance positive. Il est très contemplatif,
oui.
Il herborise, il s'adapte au rythme de la nature, il est dans l'oisiveté. Vous pensez que c'est possible d'être uniquement gouverné par ses sensations? Parce que même s'il dit « je ne veux plus me souvenir, je ne veux plus être dans le ressassement, le passé », il ne fait que se souvenir.
Oui, et puis il écrit les Confessions d'ailleurs, qui est un summum de la littérature autobiographique parce qu'il y a une acuité du regard posé sur soi-même, à la fois une subjectivité intense et en même temps, par la beauté de la langue, une objectivité telle que le sujet qu'il met en face de lui-même et qu'il portraiture, c'est lui et c'est tout le monde. Il arrive à ce à quoi les artistes doivent essayer d'arriver, l'universel singulier, quelque chose qui est totalement singulier et qui est par cela même totalement universel. Il y arrive, ça, par la puissance de son style.
Artaud, Rousseau, qui quand même frôlait et flirtait avec la folie, en même temps avec la quintessence de la lucidité,
ouais,
c'est la même chose finalement.
Oui, oui, c'est ça qui est beau. La langue d'Artaud, c'est d'un classicisme magnifique. C'est-à-dire, cet homme est fou, si on veut, profondément malade. Et en même temps, par exemple, quand il écrit Artaud et le suicidé de la société, la langue est d'une beauté, d'une limpidité qui est à l'égal presque de la langue d'André Gide ou d'un Rousseau, qui sont pour moi des stylistes comme les plus purs, quoi, ceux qui manient la langue de manière la plus simple et la plus belle.
Vous nous avez choisi un extrait de cette figure de sacrifié.
Parce que je remets à la mélancolie. Voilà, la première promenade dans les rêveries, c'est un texte que j'aime lire justement quand je touche le fond.
Ah.
Vous savez, il y a cette idée, quand on touche le fond, c'est toujours bien parce qu'on peut pas aller plus bas, on ne peut que remonter. Et là, justement, dans la faudrait que je me mouche.
Allez-y.
Dans la première rêverie, on a ce sentiment de toucher le fond.
Oui.
Et en même temps, ça inaugure ce texte sublime. Vous pouvez garder au montage. Hein,
c'est oui, mais c'est le meilleur moment de l'émission.
Bah oui.
Je vous en prie.
Voilà. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes, en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu qu'en cessant de l'être, se dérober à mon affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi. Toute une paranoïa gigantesque.
Grandiloquente.
Grandiloquente même. Et
mise en scène
temps,
de soi.
Enfin, quand on lit ça au moment où on se sent très bas, très petit, ça fait un bien. C'est-à-dire que très souvent, ce sont les textes les plus mélancoliques qui nous sortent de la mélancolie. Comme quelqu'un disait, je connais pas meilleur remède que la lecture de l'innommable de Beckett, par exemple. Des pages les plus désespérées de Beckett. Il y a un livre, d'ailleurs, je signale, qui est sorti, qui s'appelle de Frédéric Boyer, Là où le cœur attend, qui est une grande méditation sur l'espérance, et qui dit ça, que souvent, en fait, l'espérance, c'est ce qu'on trouve quand vraiment, alors on est au plus bas, et il y a une très belle analyse du livre de Job, parce qu'on est au plus bas vraiment de l'échelle, redescendu au plus bas de l'échelle humaine, c'est là où gît l'espérance.
Et parfois, justement, rien ne gît.
Mais justement, c'est quand il faut atteindre le sentiment où plus rien ne gît, où le désespoir est total, et là, on découvre qu'il y a une chose que l'on garde encore, comme Job. Finalement, il n'a plus rien, mais il a la parole, et donc il peut espérer, il peut projeter quelque chose, il peut même créer, et Boyer le dit magnifiquement, Frédéric, c'est le scandale de l'espérance, c'est un scandale, en fait.
Bonne nouvelle pour ceux qui sont en route vers ce fond.
Mais oui, oui. Okay.
Vous savez, Denis Podalydès, vous lisez tout le temps, vous avez un amour pour la littérature incommensurable. Je crois que vous rêvez d'être enterré avec un livre.
Non, j'ai dit
non,
ça.
Non, j'ai lu ça dans
peut-être,
une interview.
C'est peut-être.
Votre grand-mère était libraire à Versailles.
C'est ça, oui.
Et vous vouliez, adolescent, vous faire publier directement en Pléiade.
Je sais plus où j'ai raconté ça, mais je rêvais devant les livres de la librairie de ma grand-mère et de sa bibliothèque aussi. Et les Pléiades étaient en très très bonne position. Et pour moi, c'était l'Olympe, la Pléiade. C'était le... Alors évidemment, je rêvais pas seulement d'être écrivain, mais je rêvais d'être grand, immense écrivain, une sorte d'ambition messianique. Et donc, je me propulsais comme ça directement dans papier Bible.
Vous êtes un peu entré en Pléiade puisque vous avez composé l'album de la Pléiade sur Shakespeare. Oui. Félicitations. Donc vous y arrivez malgré tout.
J'ai travaillé comme ça avec les gens, c'est merveilleux. D'ailleurs, les gens qui travaillent pour la Pléiade, ce sont comme des moines dans une abbaye du 14e siècle. Ils vont chercher dans les textes de Shakespeare les différentes variantes. On a l'impression d'être dans un tout autre monde.
Alors là, vous me parlez d'études. Et je trouve que c'est un très bon enchaînement pour l'idée qui vous réconforte, Denis Podalydès, puisque c'est le concept de perfectibilité chez Rousseau, une idée qu'on retrouve dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. En gros, c'est ce qui nous distingue des animaux. On a une faculté presque illimitée. C'est assez optimiste.
Mais c'est totalement optimiste, justement. Oui. C'est ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur ce grand malade qu'est Rousseau et d'inventer. Moi, ce concept, je l'ai découvert, je crois, ou en terminale ou en première hippocaille, je crois. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux, c'est pour moi, ça. Je me trouvais tellement nul. Je me disais, mais si j'ai ce qui me distingue, c'est ma perfectibilité, eh ben, j'ai un boulevard, en fait, devant moi. Étant si nul, j'ai vraiment une route de progrès qui est incroyable. Et donc, ça m'a donné cette idée que moi, je partais avec un certain handicap, mais conscient de ma perfectibilité, je peux m'améliorer. Si je m'accroche à ça, ben, je vais remonter la pente. C'est tout bête, mais je trouvais ça casse toute idée de fatalité. Ça, c'est l'idée, je pense, la plus nocive. Oui. C'est le déterminisme, la fatalité. Enfin, tous les philosophes, justement, 18e, 19e, cassent ce déterminisme ou dialectisent l'idée. Et ça permet, alors, même aussi dans les moments extrêmement durs. D'ailleurs, quand je travaille un rôle, ou en tant que metteur en scène, il y a toujours un moment où ça va pas. Et je repense, c'est comme des vieilles chansons qui reviennent dans mon esprit, c'est des cours de terminale en fait qui me reviennent, oui ça doit être en terminale, et ça me revient et l'espace d'un instant ça me requinque.
Il y a une autre idée qui est toujours dans le domaine d'ailleurs de la connaissance, une autre idée qui est un appui pour vous, c'est la distinction entre bornes et limites chez Kant. Alors en gros, c'est les limites de la raison, les bornes de la connaissance, mais est-ce que vous pouvez expliquer brièvement et simplement pour les gens qui n'ont pas de bagage philosophique en quoi ça consiste ?
Un grand hommage, c'est pareil, c'est en même temps, c'est comme des chansons anciennes, on se souvient que des plus vieilles chansons ou des plus vieux textes qu'on a appris. C'était un cours de Madame Ménasser, ma prof de philo, et qui détermine la distinction, les bornes, nous ne les sentons pas, parce que ce sont comme des murs très très hauts, ils ne nous laissent pas voir ce qu'il y a derrière. Tandis que les limites, c'est un tracé au sol, et donc ça nous permet, c'est une notion beaucoup plus abstraite, et ça nous permet de voir au-delà. Donc nous voyons au-delà de ce qui nous limite, tandis que les bornes, nos bornes, nous ne voyons même pas que ce sont des bornes, ce sont des murs qui nous enferment. Et moi, je me sentais, j'avais d'ailleurs adoré la phrase de Gide, je suis assez intelligent pour savoir que je ne le suis pas assez. Et c'est pareil, ça rejoint l'idée de perfectibilité, c'est-à-dire nous ne sommes pas bornés, nous sommes limités, c'est-à-dire que nous pouvons toujours voir au-delà. L'homme est ainsi fait, il n'est pas comme l'animal qui lui est enfermé, qui est dans une cécité. La raison nous permet de créer une métaphysique, c'est-à-dire un monde au-delà de la physique.
C'est amusant puisque c'est à la fois très excitant d'un point de vue intellectuel, on se dit oh là là, tout ce qui m'attend, tout ce que je peux découvrir, et en même temps, il y a une idée d'humilité derrière ça.
Oui, ça vous assigne à une certaine place.
On n'a pas tous les outils de connaissance.
Non, on n'a pas tous les outils, on est foncièrement démuni. Mais c'est celui qui se sait foncièrement démuni qui va créer des outils, qui va en inventer, qui va les perfectionner. Celui qui se croit très très fort, il n'invente pas d'outils. Ou David le met par terre.
Je vous propose de découvrir votre premier antidote musical. C'est un morceau de 1979. C'est Champagne de Jacques Higelin.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage. Lutin, lucioles, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu de dû me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, il va marquer.
mère, elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes. Déjà le ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Remède à la mélancolie sur France Inter dans le bal intérieur ludique et horrifique de Denis Podalydès. On vient d'entendre Champagne de Jacques Higelin, un air qui vous met dans quelle disposition ?
Comme son nom l'indique, une disposition de champagne, de fête immédiate.
Mais de pandémonium, ce sont des créatures maléfiques.
Oui. C'est le souvenir de Jacques Higelin. Quand je l'ai découvert, c'était un ami Jean-Yves Le Restif qui m'avait fait découvrir. C'était comme un horizon qui s'ouvrait de rock. C'était un monde que je connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé immédiatement immensément poétique ce chanteur. J'adorais ses paroles. J'adore les paroles de cette chanson. J'ai chanté ça. Ça provoquait une sorte d'ivresse, quoi, comme de douce ivresse. Je l'adore toujours, d'ailleurs.
Et Lucevan le Stelle, l'air de Cavadarossi dans l'opéra Tosca de Puccini, créé en 1900, interprété ici par Pavarotti, et les étoiles brillaient. Là, on est en pleine mélancolie, puisque c'est l'amant de Tosca qui va être exécuté et qui se remémore les moments délicieux qu'il a passés avec elle.
Eh oui, pour moi, c'est là une sorte de quintessence de l'opéra italien. J'ai adoré découvrir et chanter même cet air-là, même si je n'ai absolument pas du tout de voix ni de capacité pour ça. Et je chantais ça dans la pièce La Grande Magie d'Eduardo de Filippo au Français. Et le personnage que je jouais est un homme jaloux, malade de la disparition de sa femme et qui se figure qu'elle est enfermée dans une petite boîte. Et ce chant, comme ça, à la première, quand je l'ai pris, m'a fait pleurer alors que je me reprochais d'ailleurs de ne jamais être capable de pleurer de vraies larmes en scène. Et en fait, ça a ouvert une sorte de petite écluse, parce qu'il y a là un consentement à la mélancolie dans ce chant. D'ailleurs, il y a des gens qui détestent ça, ils disent « Ah, ça dégueule de partout, surtout Pavarotti, là, il y a... » Mais il y a un don de soi à la mélancolie qui fait aussi un bien, ça rejoint ce que je disais. Quelquefois, la chanson la plus mélancolique vous met en joie, en fait.
Barthes, dont vous appréciez la voix, vous avez écrit dessus, en parle dans Fragments d'un discours amoureux. C'est à l'imparfait, et Lucevan le Stelle, et il dit que l'imparfait, c'est le temps de la fascination. Il parle du leurre épuisant de la mémoire. Parce que là, la mélancolie, non seulement il la goûte, il la savoure, il la met en scène.
Oui.
Il se vautre dedans, en fait.
C'est ça. Mais il y a une complaisance. C'est ce que nous reprochent tous nos proches. C'est arrête de te complaire dans ta tristesse. Tout le monde, à ces moments, dure. Sors, je sais pas. Or, on a besoin dans ces moments-là. Le temps s'arrête, c'est comme le temps du deuil. Barthes en parle très bien dans le journal du deuil. On a besoin de cette complaisance-là. Alors justement, des chants, des airs comme ça vous permettent, sans emmerder le monde, de vous complaire, de vous vautrer dans la mélancolie. Il faut lui donner, il faut payer son dû à la mélancolie. Si vous faites, non, ça va très bien, en donnant l'impression que ça y est, on se donne un... Eh ben, là, c'est 10 mètres plus loin, vous vous effondrez, vous explosez même.
Il y avait un historien de la littérature sur le deuil que j'avais rencontré et qui m'avait dit que la meilleure façon de traverser le deuil, je dirais pas faire son deuil parce que je suis pas sûre de croire à ce concept, c'était de dédier du temps aux morts. délibérément.
Ben, ben, vous savez, alors, je ne sais plus quel écrivain regrettait, moi j'ai connu ça enfant, ces grandes tentures qu'on mettait à la porte cochère des immeubles bourgeois pour dire que quelqu'un était mort dans cette maison. Vous aviez, on mettait un grand, ça a un, le nom exact, c'est un très beau nom d'ailleurs, vous voyez, on mettait un encadre, vous voyez ça, un encadrement de rideau qui cernait la porte cochère avec les initiales du mort dans les teintes grises et mauves qui sied bien à un enterrement. Et donc, pendant X jours, vous passiez devant cette porte cochère, vous saviez qu'il y avait un mort là. Et donc, tout le quartier, finalement, partageait le deuil. Et les gens portaient la robe noire ou le vêtement noir de deuil. Et on pouvait dire, ben, je n'irai pas au travail demain, je suis toujours, mon deuil n'est pas terminé. Alors, il y avait des périodes comme ça dévolues à ça. Ce qui est terrible, en fait, c'est le jour où c'est... ça s'arrête. Ou le jour où la société ne vous reconnaît plus le droit d'être en deuil. Barthes en parle très très bien, alors que lui, pour lui, le deuil est interminable. Continue, il y a un jour où vous vous retrouvez absolument seul. Alors là, faut être armé, faut être solide pour franchir ces étapes-là. Mais il est nécessaire de donner du temps aux morts. Ça, moi, je le crois. Et je pense que c'est une idée très joyeuse, parce que personnellement, ayant perdu un frère jeune, dans des conditions terribles, c'est le jour où la tombe s'est était ouverte, le jour de l'enterrement, j'ai ressenti en même temps un désespoir absolu et le début d'un calme qui revenait. Le calme du cimetière. Je me suis dit, il va être bien là.
La fin d'une souffrance.
Oui, la fin d'une espèce de souffrance purulente. Vous voyez, quand on suture quelque chose, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Voilà. C'est pour ça que je comprends très très bien les gens qui ne savent pas où sont enterrés. Je pense à Pérec avec sa mère, qui savait pas où était enterrée sa mère. Là, c'est un nid de dépression, de mille souffrances, parce que ils ne trouvent jamais le calme du cimetière.
Et d'ailleurs, autour de la mélancolie et de la cédille, étymologiquement, il y a une histoire de sépulture et d'absence de sépulture.
I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your head on the pillow, like a sleepy golden storm. It's many love before us, I know that we are not new in city. And in forests they smiled like me and you. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
1967, There's No Way to Say Goodbye de Leonard Cohen, chanson écrite dans une chambre suffocante d'un hôtel new-yorkais où Cohen se disputait avec une femme, ce qui lui vaudra cette réflexion. J'étais avec la mauvaise, comme d'habitude. Bon, c'est une chanson qui évoque une séparation. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, Denis Podalydès?
C'est un des grands moments de mélancolie, c'est dans la vie amoureuse. Je suis très heureux maintenant, mais j'ai connu des grandes détresses amoureuses, comme tout le monde. Et ça, c'était une chanson qui me faisait un bien, c'est pareil. C'est de se rouler dans cette chanson. La voix de Leonard Cohen, c'est la voix de la mélancolie avec un grand thème. Je connaissais pas... je restais comme ça, dans ma chambre, à regarder par la fenêtre, en passant cette chanson-là. Et en fait, c'est le remède, parce que dans ces moments-là, il y a que le temps qui passe qui peut apporter quelque chose. Donc cette chanson, elle emplit le temps. Et elle a une rythmique telle que le temps passe finalement assez simplement. Vous n'avez pas envie de l'arrêter quand elle passe, cette chanson-là. Et ce qui fait que le temps de la pure douleur, de la détresse amoureuse, there's no time to say goodbye, la séparation avec tout ce que ce mot a de redoutable, eh bien, on arrive à opposer une certaine force.
Et puis on souffre, mais sur un support berçant.
Vous aimez beaucoup le mot amour, Pablo Picasso.
Mais oui, mais oui, même une jeune fille que le jour m'a interviewé pour je ne sais pas quel journal, je lui avais dit ça, vous savez, pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas?
Vous aimez bien les gens.
J'aime beaucoup les gens.
Tout le monde.
Et si elle n'aurait pas de chance, je crois que j'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'importe quoi.
Est-ce que vous aimez la télévision aussi? Pas tellement.
J'ai J'ai commencé un jour parce qu'il y avait le mariage de la princesse Margaret et quelqu'un m'a prêté un appareil. Alors j'ai vu le défilé de la princesse Margaret et j'ai continué après.
1966, Pablo Picasso au micro d'Adam Sony. Alors, l'extrait n'a absolument rien à voir avec ce qu'on va évoquer, mais on l'a trouvé charmant.
Oui,
vous
oui,
avez
oui.
choisi deux sculptures du peintre espagnol, La Chèvre, réalisée en 1950, et La Tête de Taureau, réalisée en 1942. Est-ce que vous auriez un petit mot à nous dire sur chaque? Je suis désolé, on manque de temps.
Oui, la Tête de Taureau, dès que j'ai vu cet objet, c'est fait avec une selle de vélo et un guidon de vélo de course.
Rouillé.
Qui fait les cornes. Je trouve que tout le génie de Picasso était là, de transformer deux objets absolument banals en tête de taureau. En plus, c'était le moment où j'adorais, enfin j'adore toujours, mais
la corrida.
J'étais très 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 présent dans les arènes. J'ai adoré, comme j'ai adoré Picasso, toute l'œuvre tauromachique de Picasso. Et puis, La Chèvre aussi, c'est une sculpture merveilleuse. C'est fait aussi de briques et de broc avec des ustensiles qui ramassent comme ça. Et il y avait une chèvre qui est à la fois d'un réalisme absolu. Enfin, vous avez le concept de chèvre. Et je viens de lire, là, je suis très heureux d'entendre la voix de Picasso parce que je viens de lire ce livre que je vous recommande parce que c'est un sacré bonhomme, Picasso. C'est à la fois un odieux personnage, hein. Monde. Le livre de Françoise Gillot qui s'appelle « Vivre avec Picasso », où elle raconte ses 15 années de vie avec sa rencontre et leur vie commune.
Toutes les femmes ont été très malheureuses avec Picasso.
Et la descendance, les enfants. Enfin, c'est une autre époque aussi.
Tous les remèdes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder seront sur le site internet pour les auditeurs, pour qu'ils les découvrent.
Mais ça, c'est l'exemple même du personnage non mélancolique qui fait souffrir un nombre de gens incalculable.
C'est peut-être pour
finalement,
ça,
un être mélancolique fait moins souffrir.
Oui, mais peut-être que c'est le remède.
Il faut être un monstre. Lui, il faut être un monstre pour être totalement heureux.
Eh ben, on conclut sur ça. Soyons des monstres. Merci Denis Podalydès d'être venu dans cette émission.
Merci à vous, merci.
On peut vous voir dans l'adaptation des Damnés de Visconti, mise en scène par Ivo Van Hove à la Comédie Française Salle Richelieu jusqu'au 10 décembre. Il y a aussi une captation en DVD qui est éditée par Lina et la Comédie Française. Dans la même salle se joue votre dernière mise en scène, Les Fourberies de Scapin, de Molière évidemment, jusqu'au 11 février. Et vos particules imprègnent aussi le grand écran dans le film Les Grands Esprits d'Olivier Ayache Vidal, toujours en salle. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont sur le site de l'émission. Vous pouvez nous réécouter en podcast ou sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi frétillant qu'une gomme en exil, retrouvant sa trousse de prédilection. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie de l'écrivain Yakuta Ali Kavazovic.